6h02, lundi 9 septembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Alors, prévision météo pour lancer la semaine, c'est un ciel généralement nuageux. On a 9 degrés, le maximum prévu pour aujourd'hui, autour de 19, avec du soleil, quelques petits nuages à travers tout ça. En soirée, un peu plus nuageux, avec un minimum de 6, pas très chaud là, pour la nuit prochaine. Demain, mardi, c'est du soleil, autour de 20 degrés. Cependant, les nuages s'installent tôt en après-midi. Et on prévoit que la pluie devrait commencer en soirée, se poursuivre toute la nuit. Et là, mercredi, c'est vraiment une journée de pluie, des averses qui sont prévues jusqu'en soirée facilement. Quand vous regardez en termes de pluie, la quantité qui est anticipée pour, disons, la journée de mardi, c'est de 10 à 15 mm et peut-être un petit peu encore durant la journée de mercredi. En parlant de météo, il faut jeter un coup d'œil, bien sûr, sur l'ouragan Dorian, la tempête maintenant, puisqu'elle a changé de statut. Et selon les derniers relevés, on peut dire qu'elle a dépassé la province de Terre-Neuve et se dirige vers le Labrador. Il y a toujours au-delà de 200 000 foyers qui sont privés d'électricité. Ce qui fait que, d'après les analyses des météorologues, Dorian perd quand même de l'intensité dans ses mouvements et se déplace vers l'Europe. Cependant, il pourrait y avoir encore des vents importants et donc des dommages qui seraient causés lors du passage de la tempête Dorian. Et aux îles de la Madeleine, je regardais l'ensemble des témoignages, il faut dire que ça a brassé pas mal. Les dégâts sont importants. Le maire dit qu'il a été un peu surpris de l'ampleur des vents. Là, c'est pas loin de 150 km/h. Encore des gens qui sont privés d'électricité, des dommages, mais c'est toujours l'après qu'il faut considérer. C'est-à-dire que là, vous avez des gens qui, par exemple, vont devoir reconstruire, réparer. Il y a des bouts de route également qui ont été endommagés. Il y a toute la question des berges qui, évidemment, le phénomène de l'érosion rend les Madelinos inquiets. Mais on sait que les Madelinos sont habitués à des conditions dures, sont des gens très résilients, très courageux. Et là, Hydro-Québec est sur place. Alors, tout ça va se replacer, mais évidemment, il y a une facture. Et là, déjà, le maire des îles dit, ben, il va falloir que Québec nous aide à débourser quand même certains montants pour restaurer, pour réparer. Alors voilà pour ce qui est des îles et le portrait de la situation. Et pour terminer le volant météo, si on veut, et environnement, eh bien, on a appris hier que Greta Thunberg viendra à Montréal le 27 septembre prochain. On sait que c'est une journée importante. Elle doit participer donc à différentes activités, à une manifestation pour sensibiliser la population au changement climatique. On sait que, pas juste au Québec, là, puis au Canada, mais c'est une figure qui est controversée, qui génère autant d'amour, d'admiration que de haine sur les réseaux sociaux. Ce qui, moi, me dépasse. Voilà une jeune fille qui ne fait que sensibiliser. Puis là, je lis des commentaires. C'est pas un enfant qui va me dire quoi faire. Puis c'est tabarouette. Et elle dit, ben, t'es pas obligé de me croire. Puis regardez ce que la science dit. Mais on sait qu'il y a tout un courant, quand même, très actif sur Facebook et ailleurs, ou en réaction à des articles comme ça, qui attaque ce message-là, puis parle de des espèces d'anxiété climatique qui sont absolument délirantes. Ah, c'est un symbole, Greta Thunberg, et là, elle a décidé de venir à Montréal quand même pour cette journée importante, et je pense qu'elle sera bien reçue. Je sais qu'il y a Manon Massé qui veut qu'elle fasse un tour à l'Assemblée nationale. Bon, on a un premier cas, fallait s'y attendre, et c'est un peu dans la confusion que ça se passe. Alors, Commission scolaire de Montréal, on a une enseignante qui veut porter le hijab et elle n'a pas ce qu'on appelle le droit acquis. Il y a deux autres enseignantes, cette fois c'est à la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, je pense, qui arrivent, et qui donc n'ont pas de droit acquis, et qui veulent porter le hijab et on a décidé de ne pas les embaucher, comme le prévoit la loi, même si on est en période de pénurie de main-d'œuvre. Alors, la grande question, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, à propos de l'enseignante de la Commission scolaire de Montréal, c'est quoi la suite? Alors, il semble, d'après le Devoir, donc ce matin, que la directive est de retirer son voile avant demain. Et donc, si elle n'obtempère pas à cet avis, mais là, j'imagine, parce que là, on nous dit qu'il y a un flou, qu'il y a de la confusion, qu'on ne sait pas. Sérieusement, ce que je pense, c'est qu'on va y aller par étapes. Elle ne sera pas congédiée demain après-midi. On va faire un deuxième avertissement, un troisième avertissement, quatrième avertissement, peut-être une mesure disciplinaire. Je ne la connais pas, là. Je ne sais pas c'est qui. Est-ce qu'elle est instrumentalisée par, disons, des opposants à la loi? Peut-être. Peut-être pas. Peut-être c'est un geste par conviction. Mais il arrive souvent qu'on a ce qu'on appelle des symboles aussi. Puis on prend un cas, et ce cas-là est donc appuyé par d'autres. Alors, je ne sais pas c'est qui. L'Alliance des professeurs dit, écoutez, on ne peut pas congédier quelqu'un, ça prend une faute grave, ça prend comme un bris de confiance, mais en même temps, il faut respecter la loi. Et ça, c'est sûr. Puis on sait que la commission scolaire de Montréal n'était pas très chaude à l'idée, pour être poli. Au début, ils disaient, ah, on ne sera pas prêt. La question fondamentale, c'est quelles sont les conséquences du non-respect de la loi. Et donc, c'est pas très, très clair là-dessus. Et d'ailleurs, la présidente de l'Alliance dit, on ne sait pas comment cette loi sera appliquée. On a l'impression que la commission scolaire de Montréal ne le sait pas plus. Et là, vous avez des enseignants, principalement des enseignantes, là, qui veulent porter ce signe religieux, le hijab, le voile, et qui tiennent tête et qui disent, ben, vous avez besoin de profs, vous voulez pas, ben, nous, on va faire autre chose. Et c'est sûr qu'il y a quand même une réaction épidermique de certaines enseignantes qui veulent continuer à porter le hijab. Puis rappelons-nous le cas de Rosemont, où là, vous avez un père qui dit « Je veux pas que mon enfant se retrouve dans une classe où l'enseignante porte le voile. » Et la commission scolaire et le ministre disent « C'est pas aux parents de décider. » Puis là, le lobby qui s'organise autour de ça dit « Au contraire, la loi stipule que j'ai droit pour mon enfant à un environnement laïque. » Réponse du ministère, ça va se faire graduellement. Alors, ceux qui pensaient qu'on serait dans une rentrée tranquille concernant les débats sur la laïcité et les signes religieux, on voit bien qu'on est complètement ailleurs et qu'on va en avoir d'autres de ces questions-là. Et juste une parenthèse. Parmi les débats qu'on a vus dans le monde scolaire récemment, tout le débat sur la gratuité, qu'est-ce qui est payé, quels sont les frais, l'école exagère. Après ça, il y a eu, évidemment, ce règlement qui a fait en sorte qu'il y a des trucs qui étaient fournis par l'école. Les parents n'avaient pas à payer. Et là, on est en pleine rentrée scolaire. Moi, je suis halluciné par l'histoire du papier mouchoir dans les classes. Et je sais que Pierre-Yves va en parler tantôt, là, mais juste donner un exemple d'un courriel que j'ai reçu. C'est pas des farces, là. C'est quelqu'un qui m'écrit, « Monsieur Arcan, je suis absolument scandalisé de ce qui se passe. Mon enfant fréquente une école secondaire. Et ce qu'on découvre, finalement, c'est que il n'y a pas de papier mouchoir. C'est l'école qui est supposée fournir la boîte de mouchoir. Puis là, hey, je peux pas croire là, qu'on perd du temps à gérer ça. Dites-moi quelle école vous êtes, on va aller vous emporter des boîtes de Kleenex. Tu sais, il y a quelque chose de complètement ridicule. Puis là, t'as pas le droit de demander aux parents, t'as pas le droit, puis là, c'est-tu le prof qu'il faut qu'il l'apporte, puis là, sa fille est dans une classe où il y a pas de Kleenex. Hey, hey, y a-tu quelqu'un qui va se réveiller? Allez dans une pharmacie, allez chez Costco en spécial, faites ce que vous voulez, mais on n'a pas d'argent, on est-tu dans un débat idéologique autour des papiers mouchoirs, des Kleenex? Donc, c'est assez ridicule. 6h presque 12, Marc est là. Et c'est un lundi matin, disons, qui pose un certain nombre de problèmes. Très bien, on poursuit la revue de presse. Et ce matin, on vous racontait d'ailleurs vendredi cette histoire-là, qui est dans la presse aussi ce matin, de cette jeune fille qu'on a voulu marier de force, dont les parents sont arrivés au Canada en 2016 et qui, donc, avait signé un contrat avec un imam pour marier l'ado de 15 ans. Elle ne voulait pas se marier. Elle s'est sauvée de chez elle. Ils l'ont pourchassée chez des voisins qui d'ailleurs donne une entrevue à la presse où il raconte que la jeune fille était venue trouver refuge et que là, la police est intervenue, la DPJ est embarquée là-dedans, les services sociaux. Autrement dit, un autre exemple de gens qui débarquent et qui n'ont aucune idée des lois, des règlements, ou en tout cas, qui veulent peut-être en faire abstraction. Et un imam qui décide comme ça de s'improviser avec un faux document qui n'a aucune valeur. Imagine-toi, là, tu maries ta fille de 15 ans, elle n'a pas à signer. L'imam s'assure du consentement. Alors, voilà un autre cas d'extrémisme religieux. Parlons police un peu ce matin, parce qu'encore une fois, ça fait la manchette. Et on a vu ce qui est arrivé la semaine dernière avec cette histoire publiée dans le Journal de Montréal où on parlait d'une haut-gradée de la Sûreté du Québec qui aurait établi une espèce de corridor d'enquête dans l'affaire Guy Ouellet, donc orienté l'enquête criminelle concernant le député Guy Ouellet. Alors cette fois, dans Le Soleil et aussi, je pense, dans la presse ce matin, ce sont deux haut-gradés qui demandent au gouvernement d'agir pour que cesse le coulage d'informations. Alors, c'est un document qui s'est retrouvé dans le Journal de Montréal. Des documents qui ont été photographiés, qui sont confidentiels, et les deux ont embauché Maître Guy Bertrand, là, et seulement accessibles à quelques personnes. Et ce qui est vrai, là, ce ne sont pas des documents qui circulent. C'est un document d'allégation criminelle qui vient du ministère de la Sécurité publique et qui se retrouve dans les médias. J'en parlais avec un ami qui était pas mal au fait de ces questions-là la semaine passée, qui m'a dit « Écoute, ça n'a aucun sens que ça se retrouve dans... Il y a quelqu'un qui fait du coulage, comme il y a du coulage dans un paquet de dossiers policiers qui concernent l'UPAC. » Et là, c'est Maître Guy Bertrand qui représente Caroline Grenier-Lafontaine et son conjoint André Boulanger. Madame Grenier-Lafontaine, c'est celle qui est visée par ce document qui est une forme d'allégation criminelle. Et M. Boulanger était le numéro 2 de l'UPAC. Les deux ont été tablettés, selon certaines versions officielles, en congé maladie. Et dans le cas de M. Boulanger, je rappelle la rumeur, est-il ou pas un témoin qui collabore avec l'enquête du Bureau des enquêtes indépendantes? Quand je vous dis que ça va mal à la police et que le gouvernement Legault dort au gaz là-dessus, la Sûreté du Québec n'aura même plus de directeur par intérim en décembre. Je comprends qu'il est parti, ça en va à la retraite, il avait le droit, il part plus vite. L'UPAC, personne n'est nommé. Tous les dossiers, puis là, j'ai l'air de me répéter, et là, c'est rendu que vous avez des hauts gradés qui disent comment ça se fait qu'on retrouve dans les médias des documents d'allégations criminelles. Parce que quand on fait une allégation criminelle, c'est pour dire quoi? Que Guy Ouellet a été frémé, c'est ça qu'on est en train de dire, puis on dit cette personne-là est responsable. Alors, il est temps là, d'avoir, comme on dit, une déclaration, disons, sérieuse de la ministre Guilbeault qui perd des gens autour d'elle. Puis le DPCP, on n'en parle pratiquement pas. Depuis vendredi, puis même avant, je reçois des courriels de policiers qui me racontent des histoires de blocage. Et la personne qui va me dire le contraire là, a besoin de se lever tôt pour me faire une démonstration. Il y a du blocage systématique. Les relations sont nulles, pourri entre le DPCP et les enquêteurs, dans un paquet de dossiers. Les flics, en un mot, ont l'impression de travailler pour rien et que si ce n'est pas 100% béton, ça ne passe pas. Et là, c'est dans la cour de la ministre Lebel, ça ne va pas bien sous la direction de Mme Murphy. Mais je sais qu'on ne peut pas dire ça, puis je sais que ce n'est pas un sujet qui intéresse trop le gouvernement. Mais je ne sais pas, moi, dans une société, là, de voir l'état de la police, il semble que ça mérite un point d'interrogation. Alors donc, dans Le Soleil, vous retrouvez ça ce matin. Dans les autres nouvelles, il y a cette histoire de... puisqu'on parle de prévention du suicide, dans Le Soleil et aussi dans The Gazette, où on raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'est enlevé la vie il y a 2 ans. Sa mère, Martine Brault, raconte que depuis sa mort, puis il est mort au volant d'un véhicule. Tu sais, les gens qui prennent le volant avec une intention suicidaire. Et donc, son fils a foncé sur un viaduc de l'autoroute Duplessis à Québec le 6 septembre 2017. Depuis ce temps, elle a lu 800 rapports du coroner et elle dit « ça ne peut pas être sur 2 pages, ça prend plus d'informations ». Elle dit que les coronaires ne prennent pas le temps d'enquêter sur les causes psychosociales du suicide et aussi peut-être faire des recommandations sur les rôles que les proches peuvent jouer. Elle vient de découvrir, en fait, elle a découvert ça après la mort de son fils, qu'il avait parlé de suicide avec des amis, que c'était pas un secret, qu'il avait préparé un document, une espèce de testament, si vous voulez. Et elle dit, il faut absolument qu'il y ait une analyse plus poussée pour permettre justement de faire des recommandations. C'est ça, entre autres, le travail d'un commissaire. Roméo Bouchard, qui est cofondateur de l'Union paysanne, sera avec nous ce matin. C'était des portes ouvertes, les 17e, organisées par l'Union des producteurs agricoles en fin de semaine. Une centaine de fermes dans toutes les régions du Québec qui ont été visitées. C'est important qu'on parle d'agriculture. Et c'est important de regarder les enjeux. Quel est l'impact des ententes internationales, les ententes de libre-échange sur les producteurs d'ici, des guerres tarifaires qu'on voit, États-Unis, Chine, États-Unis, Canada, pour les producteurs. Et on le voit, les marchés qui s'ouvrent, mais en même temps des deux côtés. Toute la question des pesticides. Il y a une préoccupation de plus en plus verte des consommateurs qui exerce une pression. Et est-ce que l'agriculture peut répondre à cette demande-là? Alors, avec Roméo Bouchard, on va faire un peu le tour de ces questions-là, mais je trouve ça quand même important d'en parler parce que les gens, même si ce n'est pas toujours du bio, sont préoccupés, pas juste ici, de voir comment on peut prendre un virage encore plus respectueux de l'environnement. Puis quand on voit toutes ces études qui font, avouons-le, des liens inquiétants entre le développement de certaines maladies et la présence de ces pesticides dans l'environnement. Un mot aussi sur la situation à l'hôpital de Saint-Eustache. On sait qu'on a dû fermer en fin de semaine de façon préventive. Il y avait quand même du personnel sur place, mais ça reste à vérifier. Mais on nous dit qu'il y a quand même eu des accouchements parce que là, c'était urgent, on ne pouvait pas rediriger. Mais la problématique demeure la même. Encore là, roulement de personnel, épuisement, puis les gens ne veulent pas, et on peut les comprendre, se lancer dans des opérations de temps supplémentaire. Et un petit mot sur la scène internationale également. Alors que vous avez en Grande-Bretagne tout ce débat sur le Brexit, est-ce qu'on va se retrouver avec des élections anticipées? On sait que le premier ministre Boris Johnson veut absolument, lui, que ça se termine pour l'Halloween. Alors, entente ou pas, on va sortir. Et là, il se fait battre. Même son frère est contre lui. Et on pense que le Parti conservateur qu'il dirige est pour le moins ébranlé par cette situation. Et aussi, le président Trump qui devait rencontrer les talibans en fin de semaine, ça a créé tout un scandale. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a eu des négociations secrètes. Les Américains veulent sortir de l'Afghanistan. Et là, on voulait faire un deal avec les talibans qui devait s'engager à ne plus accueillir de terroristes. Il y a eu un attentat, il y a un Américain qui est mort. Trump a annulé tout ça en disant qu'il n'y a pas question qu'on les rencontre. Et pas n'importe où, là, à Camp David, qui est la résidence secondaire du président américain. Et c'est l'endroit où les plus grands de ce monde sont accueillis et où les accords de paix les plus importants ont été signés. Où, entre autres, le président Bush, à l'époque, s'est réuni avec ses conseillers pour préparer la réplique aux attentats du 11 septembre. Et cette rencontre devait avoir lieu quelques jours avant l'anniversaire des attentats de New York et de Washington également. Alors, tu sais, c'est comme un peu bizarre qu'on soit prêt à négocier avec des gens qui sont considérés comme des terroristes. Qu'il y ait des pourparlers, ça existera toujours, mais de les recevoir à Camp David, il y a pas mal de gens qui ont sursauté. Il est quelle heure? 6h21. Et toujours le secteur de Repentigny.